Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Ouh, je gueule comme un cochon là. Une émission musicale ce soir, alors la dernière session de Détruire l'ennui m'avait vu sélectionner une poignée de labels et explorer un petit peu leur récente discographie. Donc on était resté sur des choses très nouvelles. J'allais dire fraîche, mais le terme n'est peut-être pas si approprié. Là, je suis parti dans un délire différent. Suivant le temps dont je disposerai, donc suivant le nombre de mots que je prononcerai entre chaque session, chaque plage. Donc j'ai sélectionné 6 pays et 4 morceaux par pays des vieilleries. Voilà, donc cette fois-ci, pas de nouveautés. Je suis resté dans les années 80 et 90. Alors, ça fait bizarre de se dire que les années 90 sont des vieilleries, mais objectivement, ça commence un peu à dater, surtout en termes de production et d'écriture parfois. C'est très, très marqué, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai des trucs classiques, des trucs beaucoup plus obscurs, majoritairement des choses peu connues qu'on a soit jamais, soit peu passé au cours de la longue histoire de Détruire l'ennui. Je crois, enfin après j'ai pas noté, on avait passé des milliers de groupes hein, de toute façon. Voilà, donc on a papy a fait la liste, je sais pas où elle est, faudra que je la retrouve. Donc c'est possible qu'il y ait quelques redites, mais très honnêtement, personne ne m'en tiendra à rigueur. La première destination de cette émission, c'était le Japon. Alors le Japon, la scène japonaise, comme très largement la culture populaire japonaise est très appréciée, très recherchée. Le punk japonais, évidemment, est un petit peu à l'image de ce pays hyper bizarre, donc très exubérant, très radical. Rien qu'au niveau des looks, hein, les punks japonais, ils ont des crêtes de 10 mètres. Enfin, ils sont assez hallucinants, du cuir partout, ça saute. Voilà. Il y a une certaine intensité dans le punk hardcore japonais qui se retrouve pas vraiment ailleurs, en particulier dans les années 80, où chaque scène, chaque pays avait un peu son propre son. Le fait qu'il y ait Internet, surtout, même avant, hein, les réseaux sociaux et tout ça, ont fait que peu à peu, les espèces de particularismes nationaux ou même régionaux, des fois hein, le punk basque sonnait comme du punk basque et pas comme du punk espagnol, voilà, ça s'est un petit peu dilué. Hein, donc maintenant, il y a des groupes qui sonnent comme des groupes japonais au Chili, par exemple. Voilà. Mais le Japon a toujours gardé cette espèce d'identité du punk, comme s'ils sont très insulaires, on a l'impression que rien ne les touche vraiment. C'est-à-dire que dès qu'ils font, même quand ils essaient d'adopter les codes d'un autre style de punk, ils le font tellement à leur manière qu'on le reconnaît tout de suite. Voilà, c'est ce qui fait que c'est si recherché et si apprécié. Bon, ça c'est la parenthèse. On a commencé donc cette série de punk japonais, j'ai pris que des groupes des années 80. On a commencé par The Clay. The Clay, c'est un groupe culte, en jugé par les prix de copies originales. Ils ont sorti qu'un seul EP, The Clay, hein, qui est paru en 84. Exactement, 84. Qui s'appelait The Middle East Combat Area. Ils étaient de Tokyo, The Clay. Donc seulement 3 morceaux sur cet EP, qui est bon, hyper bien. Hein, espèce de metal punk survitaminé avec des solos et. Voilà, un petit peu tout ce qui fait les caractéristiques du hardcore japonais du milieu des années 80. Un chant assez guttural, très rappeux, quoi. Des solos heavy metal et ça va vite. Voilà, c'est en général des bons musiciens. Donc le morceau qu'on a écouté, c'est de Demilitarized Neutrality. Ça parle beaucoup de guerre, hein, les paroles des groupes japonais de l'époque. C'était sur Dogma Records. Dogma Records, qui était un label qui a sorti... Beaucoup des classiques du hardcore japonais de cette époque. Il a sorti du Gizem, The Combs, Gastung, Swankies et beaucoup d'autres. Ouais, donc The Clay, c'est un classique d'un groupe qui fut éphémère, hein, parce qu'ils n'ont sorti que ça. Derrière, on a eu Asbestos. Ils sont aussi de Tokyo, un petit peu postérieurs, puisqu'ils se sont formés en 89. Apparemment, ce qui me semble un peu bizarre, parce que le premier est 88. Non, ça c'est une erreur. Ils se sont formés en 87. Ah, j'arrivais pas à me relire. Au contraire de The Clay, il y a une belle discographie hein, d'Asbestos, puisqu'ils ont existé pendant un peu plus de 10 ans. Le dernier disque, il est de 2001, dernier enregistrement. Il y a une discographie d'ailleurs qui est sortie, un double vinyle super beau qui est sorti il y a 15-20 ans sur un label suédois que j'avais chopé à l'époque. Le morceau qu'on a écouté, c'était Fight Back d'Asbestos, sorti sur leur premier EP sorti en 88 qui s'appelait War Crisis. Et on n'est pas très très loin de The Clay, hein. On est toujours sur du hardcore guttural avec du solo. Ça c'est le début d'Asbestos, un peu à peu ils vont un petit peu changer leur son et ça va devenir un des groupes qui a influencé le crust japonais, proto-crust japonais. Hein, donc le crust est né au Japon avec l'inclusion d'influences britanniques, hein, donc le crust est né en Grande-Bretagne. Tous les groupes comme Doom, Extreme Noise Terror, toute cette vague années 80, Napalm Death, Axe Grinder, Antisect et compagnie. Donc Asbestos, ils vont changer peu à peu leur son. Voilà, c'est une espèce d'hybride proto-crust, hein, ça serait le terme adéquat. Un bon groupe hein, que j'aime beaucoup, Asbestos. D'ailleurs, on a eu Macrophage. Alors eux, ils sont également de Tokyo. Ils sont pas tout à fait dissimilaires. Même si ils ont existé beaucoup moins longtemps, Macrophage. Hein. Je crois que c'est de 88 à 91, en gros. Hein. Ils commencent comme un groupe de hardcore japonais assez traditionnel, hein, comme on a pu l'entendre. Le morceau, il est de 88. Il s'appelle I Work to the Death. Ça parle du travail au Japon. Les punks japonais travaillent beaucoup. Enfin, les japonais travaillent beaucoup. Ils ont très peu de vacances. Et ils font que bosser, quoi. Ce qui est pas toujours évident. C'est aussi la raison pour laquelle ils tournent assez rarement en Europe. Sauf les gros groupes hein, qui en vivent. Mais les groupes de punk, c'est rare. Donc, I Work to the Death, c'est tiré de leur démo cassette de 88 qui s'appelle Stop Your Nonsense. Donc sur cette cassette, le groupe encore vraiment on est dans le hardcore japonais avec tous les codes. Et dès le disque suivant, on est beaucoup plus influencé par Doom, hein, le groupe britannique. Doom, c'est un mélange de hardcore suédois avec des trucs beaucoup plus hommes des cavernes, gutturaux, beaucoup plus lourds, beaucoup plus sales. Voilà, donc Macrophage, c'est un des premiers groupes de crust japonais, vraiment. Voilà, mais je trouvais ça intéressant de passer un morceau qui n'est pas forcément représentatif de ce statut. Et on a fini par Nightmare. Alors Nightmare, groupe hyper classique. Là, c'est clairement le groupe le plus connu des quatre de très très loin. Ils sont encore actifs, Nightmare, alors qu'ils ont commencé en 87 ou 88, premier disque de 88. Et voilà, ils jouent toujours. Ils sont de Osaka. Donc Osaka, c'est ce qu'ils appellent le Marseille japonais. Hein, donc c'est un peu plus relax, un peu plus destroy aussi. Donc on a écouté un extrait du premier album qui s'appelait Give Notice of Nightmare, sorti en 90. Le morceau, c'est Black Window. Grosse discographie, hein, Nightmare, 3 albums, 7 EP, des splits. Voilà, je les ai jamais vus. Alors, ils ont joué une fois en Europe, peut-être plus d'une fois, mais au moins une fois à Copenhague, oula. Petit bout de temps maintenant, 15 ans peut-être, je revérifie la date. Et voilà, tout le monde me dit que les gens qui les ont vus soit ici, soit au Japon, c'est un des groupes les plus intenses qu'il aurait été donné à voir. Voilà, donc en général, les groupes japonais en live sont très très bons parce qu'ils jouent comme si c'était leur dernier concert de leur vie. Ils donnent à 100%, qu'il y ait 5 personnes dans la salle ou 500, c'est aucune importance. Ça fait le show, ça joue à fond, c'est souvent très impressionnant. Voilà, je referme la petite parenthèse. On va complètement changer de... pas d'époque, mais on va clairement changer d'ambiance. Parce qu'on va partir faire un tour dans le punk polonais des années 80 majoritairement, un petit crochet vers les 90, avec des trucs assez caverneux. Allez, c'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Après donc une émission où j'ai sélectionné 5 pays, 4 morceaux par pays, des vieux trucs, hein, des choses classiques ou des choses complètement méconnues. Voilà, pour sortir quelques dépoussiérer quelques petites vieilleries, parce que ça me fait plaisir de faire ça, et parce que c'est l'occasion de passer des groupes qu'on n'a jamais vraiment passé. Alors, une petite série de 4 groupes polonais. Alors là, je suis sûr qu'on ne les a pas diffusés, ceux-là. Quasiment certains, en tout cas. Premier groupe, c'était Convent A. Un groupe, par là, assez méconnu. Hein, qui était actif dans les années 80. Ils étaient de la région de Gdansk. Hein, donc, Danzig, hein, si connu sous ce nom-là, donc plein nord, hein, sur la Baltique. C'est un groupe qui a laissé seulement des lives de leur passage, donc c'était plutôt anarcho-punk avec un chant féminin très en avance, c'est très chouette. Hein. Bon, après, la qualité du live fait que c'est un peu à la fois dommage et normal. C'était le cas de beaucoup de groupes de l'époque, hein. Il y avait apparemment les moyens d'aller dans un studio, apparemment les possibilités, donc c'était beaucoup d'enregistrements des groupes de ces années-là, sont des lives, sauf un morceau qui a été enregistré à un moment donné dans le studio de répète, qui s'appelle Kimi Esten Hoviek, et donc qui est apparu sur une compilation cassette, sorti en 88, avec principalement des groupes de New Wave, hein. Donc voilà, c'est genre pas que. Il y a Bielizna aussi qui est un peu punk, mais sinon, là, c'est majoritairement des groupes de New Wave. Et la compilation cassette s'appelle Faladva. Donc c'est complètement introuvable, évidemment. Et donc il y a ce morceau de Convent A qui est super bien, assez mélodique, dans les guitares, dans le chant. Et ça préfigure complètement les groupes type Post-Regimen qui vont suivre, même si c'est sûrement un hasard. Il y a quand même ce côté-là dans l'écriture, dans la façon de chanter. Mélodique mais agressif, qui va devenir un peu un fait caractéristique du style, quoi. Le groupe va se reformer des années après en Angleterre. Il y a beaucoup de punk polonais qui ont déménagé en Angleterre suite à l'intégration de la Pologne dans l'Union Européenne en 2004. Et donc il y a là-bas une petite scène de punk polonais. Et ils ont enregistré un album en 2013 qui s'appelle Czerwieni Biel. Donc sorti donc en CD et en vinyle sur Jimmy Jazz, qui est un label polonais. Alors, avec un son beaucoup plus propre, évidemment, c'est incomparable. Certaines vieilles chansons, quand même, ont été réenregistrées. Punk mélodique, on peut y prêter une oreille, c'est vraiment pas si mal. Derrière, on a eu Fate, un groupe qui est beaucoup moins obscur, puisque c'est un groupe qui s'est récemment reformé. Alors, Fate, ils ont commencé en 90, donc c'est pas un groupe des années 80. On est sur la génération 90. Et c'est un groupe qui mélange le punk rock et le reggae, mais sans que ce soit jamais le reggae pouette-pouette qu'on peut avoir souvent, malheureusement, en France. Ça reste assez mélancolique, chaleureux quand même. C'est un groupe très intéressant. On a écouté un morceau qui s'appelait Wieczorem, ça veut dire le soir, quoi. Tiré de leur album de 95 qui s'appelle Ananke. Ananke, ça veut dire destin, hein. Qui était sorti donc sur Nicknitzniewie, le gros label polonais, un des plus gros labels punk d'Europe, et un des plus vieux encore en activité, même le plus vieux d'ailleurs. Donc le Fate, ils ont continué jusqu'en 2004, ils se sont reformés en 2013, et voilà, depuis ils rejouent, et ils ont sorti un album l'année dernière. Donc on aurait pu passer un extrait d'ailleurs, mais on l'a pas fait. Voilà, groupe très intéressant, un chouette morceau aussi, assez mélodique, petit côté reggae qui marche bien, c'est très populaire là-bas. Ensuite, alors là, on est dans de l'obscurité de nouveau, on a écouté un morceau de Bjedwa Ojca. Alors c'est un groupe qui était évidemment, c'est vieux, qui s'est passé à Gliwice, groupe de hardcore, formé fin 84, les enregistrements de l'époque qui traînent sont de 87. Il doit y avoir des cassettes live. Moi, le morceau que je vous ai passé, en tout cas, c'est un morceau studio. Bon, studio, sur un 4 pistes. Hein. Bon, alors, hardcore punk années 80, assez classique, avec un refrain repris encore qui s'appelle Rasem, ça veut dire ensemble. Voilà, un chouette groupe, hein, c'est, on aime le hardcore cru, hardcore européen bien cru des années 80, avec beaucoup de rage pour compenser le manque de matériel, ça fera complètement l'affaire. La cassette, ça s'appelait Underground, donc il y a pas mal, alors l'original est introuvable évidemment, mais ça a été réédité en 2012, la discographie de Bjetva Oitsa, donc c'est relativement, enfin ça peut se trouver à un prix tout à fait correct en CD. Et en vinyle. On a fini par un groupe qui s'appelle Stress. Alors des groupes qui s'appellent Stress dans le punk, il y en a des quantités hallucinantes. Chaque pays a son Stress, hein, c'est quasiment ça. Alors eux donc, ils sont de Jelenia Góra, également formés en 84, hein, comme Bjetva Oitsa. Un tube, hein, sur le morceau qu'on a passé, hein, c'est Militsyjny Kraj. C'est un morceau sur la police. C'est le morceau, enfin, si j'ai bien compris, en jugé parce que les vidéos que j'ai trouvées, c'est le morceau pour lequel ils sont majoritairement connus, c'est un morceau anti-flic. Donc le groupe a existé entre 84 et 95, quand même, hein, ce qui est tout à fait honorable. Alors je ne connais pas toute leur discographie, mais là encore, hein, y a des choses. La version qu'on a du morceau qu'on a écouté est live. Il y a aussi une version studio qui est limite plus cru que le live, le groupe savait jouer, hein, pas de. Donc voilà, même si c'est un poil bordélique, ça reste un bon. Bon, en général, des bons lives, hein, les groupes polonais de l'époque. Ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient sur scène. Voilà, il y a une discographie qui est sortie en 2016 du groupe sur NIC. Donc ça, pareil, ça se trouve assez facilement en vinyle et en CD. Stress. Apparemment, ils se sont reformés en 2018 parce qu'il y a un live à Wrocław qui existe, voilà, que je n'ai pas écouté. Voilà, donc ça, c'était un petit tour dans le punk underground polonais. On va aller un petit peu plus au sud pour la prochaine série avec la Slovénie. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 80.4, c'est l'émission Détruire l'ennui qui fait son petit tour du monde punk. 5 pays, 4 morceaux par pays, plutôt des choses, des vieilleries, des choses à dépoussiérer, à ressortir de la naphtaline, à faire découvrir, exhumer. Certaines choses sont assez chaotiques et mal enregistrées. Ça dépend bien entendu du contexte d'écriture, de production et du matos qu'on a sous la main. Ou pas. Là, on a fait un tour par la Slovénie des années 80. Alors, ce qui n'est pas vraiment très connu, forcément, c'est que Ljubljana, c'est quand même la grande ville slovène, c'est là où tout se passe, fut un des centres névralgiques du punk hardcore de la région, voire même d'Europe, hein, puisqu'il y a il y avait une vraie scène très très dynamique hardcore punk dans les années 80 à Ljubljana. Bien plus que dans d'autres villes plus grandes de la région et d'ailleurs. Hein. Ce qui fait qu'il y a, il y a eu des disques de sortie, des cassettes, enfin une production. Et il y a un style hein, de hardcore slovène, on pourrait dire, qui existe. Il y a des collectionneurs, et c'est des choses qui sont rééditées, qui sont un peu connues. Voilà, c'est quand même pour les gens qui ont une certaine connaissance ou un intérêt assez poussé hein, dans le punk hardcore des années 80. Mais voilà, c'est pour la majorité, même des punks, c'est pas quelque chose de vraiment de très connu. Ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, New Wave, hein, le label parisien, hein, qui a existé très longtemps et qui a sorti des sacrés trucs, qui avait sorti un groupe de Ljubljana, Tozi Babe, un groupe de filles hardcore punk bizarre. Donc voilà, il y avait une scène, il y avait des trucs, il y avait une belle production. Donc là, on a écouté 4 groupes. Le premier, c'était s'appelait Niet. Bon, bah, ça veut dire non. Hein. Le morceau, c'était Depressia. Ça veut dire dépression. Alors, Niet, c'est un groupe un peu particulier. Parce qu'ils ont existé, en fait, assez longtemps. Alors, au début, ils s'appelaient Depressia, d'ailleurs. Hein. Ils s'appelaient juste Dépression. Ils ont changé leur nom ou ils ont changé de membre, je ne sais pas trop. Il y a des morceaux en commun, en tout cas, entre les deux. Entre ces deux noms-là, ils ont existé de 83 à 88. Et c'était un groupe assez particulier, puisqu'ils avaient la moitié de leur set, c'était composé de morceaux de punk rock très dépressifs, assez lents, avec un peu de synthé. Voilà, quasiment du post-punk, mais très cru. Et du punk à fond la caisse, morceaux d'une minute sans mélodie. Voilà, donc ils avaient un petit peu les deux. Un peu étrange. Ils se sont reformés en 2008. Ce que je ne savais pas. Ils ont continué à jouer jusqu'en 2017. Voilà, donc, après, voilà, il y a une grosse discographie hein, de Niet, je connais que la première. C'est vrai que j'ai pas vraiment poussé. Je me méfie toujours hein, des groupes qui se reforment pour faire des. Voilà, mais le premier enregistrement est magnifique. Hein. La cassette s'appelait Stajna Mladina. Ça a été réédité. La réédition reste un peu chère, c'est un enregistrement qui est très recherché. Voilà, et donc un super groupe, hein, vraiment, de punk slovène. À mon sens, un des meilleurs de l'époque. On a enchaîné avec un groupe qui s'appelait Ujetniki Svobode. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus obscur. Hein. Pas de disque, hein, pas de sortie vinyle. C'est un groupe qui a existé surtout à la fin des années 80 quand même. Le morceau qu'on a écouté s'appelait Obshurtki Praznine, quelque chose comme ça. C'est tiré d'une démo de 87 qui n'est même pas listée sur Discogs, dans la discographie la plus exhaustive. C'est un truc que j'ai déniché sur le net, glané. Alors, l'enregistrement est assez pourri, entre guillemets. Hein, voilà, je comprends bien. Bon, ça a la pêche. Il y a un petit côté rock, un punk rock, un petit peu mélodique. Alors, ça reste agressif et morveux. Hein, mais voilà, c'est pas du hardcore à fond la caisse, ce qui est quand même beaucoup ça. À Ljubljana à l'époque. Quelques morceaux apparaissent sur des compilations majoritairement rétrospectives du punk des Balkans ou du punk slovène. Hein. Évidemment, il y a d'autres choses hein, à Belgrade ou Zagreb ou même en Grèce. Hein. Bon, en Grèce, c'est encore un petit peu différent. Il y avait des choses. Hein. La Slovénie, c'est quand même un petit peu particulier. Derrière, on a eu un morceau de S.O.R. Alors, les initiales, ça veut dire Système Organisirane Repressie. Ça veut dire système d'organisation répressive, je pense. C'était pas trop dur à deviner. C'est un groupe qui était actif jusqu'au début des années 90. Là encore, assez confidentiel. Il y a eu une discographie sortie en 2014. Ce qui était assez un peu surprenant parce que personne connaissait vraiment le groupe. Hein. Ils avaient sorti 2 cassettes par peut-être les punks locaux. Hein. Et voilà, alors là par contre, on est sur du vrai hardcore. typique de l'époque, bien cru, rentre dedans, avec des petits effets à la guitare quand même. Le morceau s'appelait Manipulatie et on a fini par Stress DA. Alors là encore, Stress DA, ça veut dire Stress Javnega Aparata. Et là, je ne sais pas ce que ça veut dire par contre. Un peu plus connu parce qu'ils ont partagé une compilation avec UBR et Obdaki Civilisatie, qui sont les deux groupes les plus connus du hardcore slovène, surtout UBR, qui a sorti un vrai EP, voilà, qui est un peu un classique. Il me semble qu'ils sont sur la compilation Peace de Maximum Rock'n'Roll de 84. Voilà, donc ça avait mis un petit coup de projecteur, hein, je pense. Voilà, et le morceau de Stress Da, alors là, c'est hardcore cru à pleine balle, 1-2-1-2, apparemment de mélodie, juste de l'énergie. Assez. Plutôt à la ricaine avec le côté Europe de l'Est, quoi. Le morceau s'appelait Propadanie, c'est-à-dire la démo de 83. Et évidemment, toute cette petite scène, globalement, du Yougoslavie, on va être complètement dévastée par la guerre. Parce que toutes ces générations-là, jusqu'au début de la guerre, tous les groupes punk ne survivent, aucun quasiment ne survivra au truc. Hein. Voilà, ça a complètement défait la scène, il a fallu tout reconstruire. Sur des bases complètement nouvelles. Bon, il y a des anciens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Hein. Il y a des choses qui sont en train d'être écrites hein, sur des punks un petit peu partout, hein, de Bosnie, de Serbie, tout ça. C'est intéressant. On pourra peut-être faire une émission un jour avec plus d'informations précises là-dessus. Faudrait que... C'est quelque chose qui se prépare. Mais c'est faisable. On va repartir avec une région un peu plus ensoleillé quand même, mais non moins violente puisqu'on part au Brésil.
União entre punks do Brasil. União entre punks do Brasil. É o que deve ter. Adeus!
Vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Petite série en plusieurs scènes nationales des années 80-90, explorées par le biais d'enregistrements à la qualité, disons, douteuse. On est passé par la Pologne, on est passé par la Slovénie, on est passé par le Japon. Il est maintenant temps de découvrir le Brésil. Alors quand on parle au Pékin moyen de musique brésilienne, il a souvent tendance à s'imaginer des choses dansantes, festives, avec des cuivres, des couleurs, de la joie de vivre. Là, on n'est pas du tout dans ce genre d'ambiance, hein. C'est du punk très agressif, très cru, enregistré avec le cul, ce qui fait tout son charme, hein. C'est le hardcore brésilien est un style. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène de Sao Paulo, parce que tout part toujours de Sao Paulo en termes de musique extrême au Brésil, hein, des groupes comme Sepultura, quand même hyper connus, viennent à peu près de la scène punk metal, quand même, paulista, comme ils disent là-bas. C'est encore une des scènes les plus importantes du monde. Il y aura beaucoup de groupes qui sortent pas vraiment du pays, donc qu'on capte pas vraiment ici. Il y en a plein qui nous passent largement au-dessus du citron. Mais voilà, il y a toujours eu énormément de choses. Et le punk est véritablement arrivé sur le continent latino-américain par Sao Paulo, pour le hardcore précisément. C'est par le groupe Olio Seco, puisque je crois le chanteur ou le guitariste avait une boutique de disques. Il y avait c'était un disquaire, il avait une boutique de scud à Sao Paulo. Il échangeait des cassettes de hardcore avec du monde entier. Les États-Unis, de Suède, de Finlande. Et il a. Il a fait un groupe, Olio Seco, qui est un des premiers groupes de hardcore. Hein. Bon, là-bas et même en général, hein, je crois que ça existe depuis 1980. Donc le premier OP, il est de 83. C'est voilà, un classique groupe de hardcore classique. Et il distribuait des cassettes un petit peu à tous les jeunes punks qui traînaient. Donc il a façonné un petit peu ce qu'allaient jouer les générations, la génération suivante. Et donc du hardcore punk hyper bourrin. Voilà, donc après, ça a évolué, bien entendu. Mais voilà, il y a quelque chose. Hein, le hardcore brésilien, ça existe. On a commencé par Fogo Cruzado. Alors là, on est sur un groupe assez obscur. Hein. C'était un groupe de Sao Paulo de 83. Alors, ils n'ont sorti que du live. Hein, le morceau qu'on a écouté, c'est un live de 82. Donc c'est quand même assez tôt. Ultra chaotique. Hein. Enfin, le truc, c'est assez cool, hein, mais il faut quand même un peu s'accrocher. C'était jamais sorti en 10, ça a été réédité en 92, donc 10 ans après. Un split LP avec Olio Seco, justement. Il y a tout le live de Fogo Cruzado qui est sur la face B. Voilà, donc c'est un groupe assez culte, parce qu'il y a le côté obscur, ils n'ont jamais enregistré en studio. Donc voilà, c'est un petit peu une petite légende, hein, Fogo Cruzado. Le morceau qu'on a écouté, ça s'appelait Uniao Entre Punks do Brasil, ça veut dire unité entre les punks de Brésil, parce que la scène, bon, je ne sais pas si elle l'est encore, mais elle était extrêmement violente. Et voilà, c'était un peu un appel à l'unité entre les jeunes punks à l'époque qui avaient souvent le couteau dans la poche. Derrière, on a eu un groupe plus récent, pas mieux enregistré pour autant. Alors, j'ai trouvé quasiment aucune information dessus. J'avais encore les fichiers que j'ai trouvés je ne sais où, je ne me souviens pas. Le groupe s'appelle Consciencia e Attitude. Il serait de Fluminense. Voilà, donc pas de Sao Paulo. Le morceau qu'on a écouté, c'était Autogestão, donc autogestion. C'est tiré d'une cassette qui s'appelle Teremos Todos as Mesmos Rostos, sortie en 96 ou 97. Et là, on est sur du noisecore punk ultra brutiste enregistré complètement à l'arrache avec des chants aigus. Bon, alors, ça s'écoute pas forcément tous les matins. Mais moi, je suis assez friand de ce genre de choses. C'est hyper primitif, hyper politique, à en juger par le nom de leurs chansons, pas les textes. Alors, un ovni complet et c'est hyper obscur. Il n'y a aucune trace de ce groupe, à quelques exceptions près. J'ai vraiment galéré pour trouver. Pour trouver rien que les dates, voilà, Consciencia et AT Today, donc ça c'est clair qu'on n'a jamais passé à Détruire l'ennui. Derrière, on a eu Disarm, alors eux ils sont un peu plus connus, ou enfin, ils n'ont pas moins oublié pour autant. C'est un groupe, alors je ne sais pas s'ils sont encore actifs, ou si, jusqu'à quand ils l'ont été. Il y a une discographie de 97 à 2001 qui est sortie, mais il y a un disque sorti en 2007 et en 2013, donc je pense qu'ils ont continué à enregistrer. Après leur discographie, ce qui est un peu chelou. Donc là, c'est les années 90, hein, Disarm, clairement. On est sur du crust 90, assez classique, doom, hiatus, à la sauce brésilienne. Donc chanté au portugais, un côté chaos un peu plus prononcé, des chants bien, bien vénères. Voilà, c'est dans le style, c'est classique, mais bien fait. C'est un groupe que j'aime bien, Disarm. Le morceau qu'on a écouté s'appelait Futuro Symphome, c'est un morceau anti-guerre, je crois. C'est tiré d'un split cassette avec un groupe qui s'appelait Holo Caos, un groupe espagnol sorti en 99. Il n'est jamais sorti ni en CD ni en vinyle. Voilà, il y a une discographie CD qui, écoute, si on cherche bien, on peut la commander pour, sans trop de complications. C'est pas un groupe très recherché, dit ça, même si je trouve que c'est chouette. Alors, ils ont choisi un nom. Un peu compliqué, parce que des Disarm, il y en a partout, quoi. Hein, il y a un groupe suédois des années 80 hyper connu, Disarm. Il y a un groupe italien, il y avait un groupe en Angleterre, bon, confidentiel, mais quand même. Il y a Battle of Disarm au Japon. Enfin, voilà, c'est pas forcément le choix le plus adéquat. Et on a fini, alors là aussi, hein, par un truc bien chaos, Tropa Suicida. Alors eux, ils ont réussi à sortir un vrai disque en 87. Ils étaient de Sao Paulo, évidemment. Le morceau s'appelait Brasil. Ça parle des multinationales et leur politique de mort en terre brésilienne. Donc c'est un morceau plutôt sérieux quand même. Hein. C'est tiré d'un split LP avec Chaos 64, un groupe encore plus chaotique. Bon, le split est assez culte, hein, pour les amateurs de hardcore cru. Vraiment cru, c'est un bon disque, hein. Il est sorti en 87, il n'est pas très très connu, mais voilà, c'est parce que c'est les groupes les plus célèbres de Sao Paulo, c'était évidemment Olio Seco que j'ai mentionné, et surtout Ratos de Porão, qui vont même finir par signer chez Warner, hein. Donc c'est Ratos de Porão au Brésil, c'est énorme, c'est un groupe qui est très 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 connu, que tout le monde connaît, bon, en Europe aussi, mais voilà, ça dépasse pas la scène punk et metal, vraiment, voilà, Ratos de Porão au Brésil, c'est, voilà, tout le monde connaît, quoi. Voilà, ça c'était les groupes, les plus petits groupes de Sao Paulo, Tropa Suicida qu'on a écouté, et Chaos 64, voilà, donc il y a beaucoup de choses, hein, qui s'y sont passées. On avait fait une émission au Brésil avec Papy, 90% des groupes qu'on a passés étaient de Sao Paulo. On aurait pu faire une émission de 10 heures, hein, tellement il y a de groupes, tellement il y a eu de groupes et tellement il y en aura. Voilà, on va continuer, on va repartir en Europe. On va partir aux Pays-Bas. Allez. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui avec un petit tour en Hollande dans les années 80. Là, on est vraiment resté sur les années 80. La Hollande, le pays du punk, hein, beaucoup grosse scène, des super lieux, parfait pour tourner, voilà, c'est très actif, hein, c'est assez... voilà, on peut jouer à Amsterdam, à Groningen, tout ça, c'est des choses à faire. La scène punk hardcore là-bas, ou même punk, n'est pas si connue pour autant, ce qui peut être un poil surprenant, mais c'est vrai que les gros classiques du punk hollandais ne sont pas forcément très connus en dehors de leurs frontières. Bon, en France, pas vraiment. En Allemagne, peut-être un peu plus, mais voilà. Alors qu'il y a quand même des super choses. Alors évidemment, il y a un groupe comme ZX, le groupe anarchiste, qui a commencé un petit peu comme groupe Crass Records, hein, à la Flux of Pink Indians, maintenant qui existe encore, qui est un espèce de groupe de musique expérimentale libertaire. Voilà, c'est hyper connu. Quelques groupes de crust comme Fleas and Lice voilà, sont assez connus, au moins de nom, mais ça c'est les années 90. Les années 80, enfin, moi en tout cas, je sais que c'est pas forcément des groupes que j'ai connus très vite. Voilà, donc ça a demandé genre, un petit peu de recherche. On a commencé par Indirect, un groupe punk hardcore un poil mélodique avec une chanteuse. Enfin, le morceau qu'on a écouté, c'est leur période un peu plus mélodique. Ils ont commencé par quelque chose de beaucoup plus primitif, bah, c'est hyper bien. Hardcore rapide, avec des bons riffs, des choses entraînantes, chant féminin en avant, c'est très bien. C'est un des meilleurs groupes de ce style en Europe à l'époque, hein, Europe continentale en tout cas. Le morceau qu'on a écouté s'appelait Ich will de Leben. Il est sorti d'un EP de 86 qui s'appelait Nacht und Nebel. Et j'aime bien l'espèce de petit côté funky tout à la fin du morceau, un peu post-punk bizarre, voilà, qui sort de nulle part et après ils repartent en hardcore. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Il y a une discographie de Indirect, hein, qui existe, un groupe qui mériterait sûrement être plus connu, bon, comme beaucoup de scènes. Hein. C'est vrai que tout le monde se concentre, enfin tout le monde. Les amateurs de hardcore ont tendance à se focaliser sur la Suède et la Finlande, parce que qualitativement et quantitativement, c'est très au-dessus du reste, mais il y a quand même des véritables perles ailleurs. Bon, voilà, je dis ça. C'est en train d'être réédité, après. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter toutes les rééditions. Hein, mais voilà, c'est un petit coup de projecteur sur certaines choses ne fait jamais de mal. D'ailleurs, on a eu Zmiv. Zmiv, ils étaient de Maple. Je ne sais pas trop où c'est une petite ville. Ils chantent majoritairement en anglais et c'est du punk rock hyper rapide, très binaire. Hein, ça pourrait être un groupe de UK 82 avec le refrain, c'est Why. Voilà, c'est vraiment punk-punk direct. Il y a beaucoup de groupes comme ça en Hollande, hein, des groupes vraiment punk-punk droit devant, à l'anglaise en fait. Ça marche bien. Zmiv, c'était assez typique, hein, emblématique de ce son-là. Évidemment, quand on parle de Hollande, et on parle aussi de Lerm et de Singred, donc Singred, c'est la suite de Lerm. C'est un des groupes. Alors eux, ils sont marxistes. Hein, ils sont pas, ils disent pas anarchistes. Hein. Enfin, ça dépend. Les trois membres du groupe ont eu beaucoup d'interviews. Ils ont des discussions là-dessus. C'est très intéressant. C'est un groupe hyper militant qui existe depuis 30 ans. Donc ça, c'est Singred. Et auparavant, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, ils avaient un groupe qui s'appelait Lerm. Et Lerm, c'était un des groupes les plus rapides de leur époque. Hein. Le EP de 84, Campaign for Musical Destruction, c'est un espèce d'ovni noisecore. Hyper violent, enregistré avec des moyens très très limités, parce que leur première batterie c'est justement des pots de peinture retournés. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment un groupe hyper culte. Donc c'est aussi un des groupes comme ZX, qui est un peu de l'autre côté du spectre, un groupe un peu emblématique et connu, hein, du hardcore hollandais. Hein, Lerm, c'est vraiment une référence au-delà de la Hollande, puisque voilà, il y a même des groupes japonais qui s'en réclament. Derrière, on a eu Jesus and the Gospel Fuckers. Alors là, c'est un peu plus obscur. Ils n'ont sorti que des démos, Jesus and the Gospel Fuckers, avec un nom pareil. On pourrait s'attendre à du espèce de rock'n'roll. Non, c'est plutôt du hardcore larrikin. Bon, ça me rappelle vraiment les groupes américains au niveau du phrasé. Voilà, donc c'est pas forcément complètement mon truc. Sauf cette chanson qui s'appelle Factory. Voilà, qui est une chanson de 10 bits en fait, hein. C'est clairement une chanson à la Discharge, Baroukers, qui aurait beaucoup influencé Disclose au niveau de sa rythmique et du riff. Disclose, c'est le groupe de 10 bits par excellence. Voilà, donc groupe sympa, hein. Voilà, mais culte parce qu'ils ont fait si peu de choses que ça en devient un petit peu mythique. À écouter, hein, clairement, il y avait des membres de Agent Orange et de Funeral Oration dans Jesus and Gold Gospel Fuckers, pardon. Deux groupes, hein, Agent Orange et Funeral Oration, on va essayer de mettre un petit peu d'accent quand même, qui ont une discographie beaucoup plus touffue et qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Agent Orange, c'est un super groupe de hardcore. Hein. C'est vrai que j'aurais pu en passer. Hein. Mais voilà, c'était plus rigolo de passer Jesus and Gospel Fuckers, qui est un petit peu l'ancêtre de Agent Orange. On a fini par sûrement mon groupe préféré de la période là-bas, Mornington Crescent, c'est le nom d'une station de métro londonien. Et le morceau Dying in the Streets, ils étaient d'Amsterdam, c'est tiré d'un EP qui s'appelle From Amsterdam. Voilà, la scène amsterdamoise était évidemment très très forte, hein. De 83, cet EP. Et alors j'adore ce groupe, le chant complètement abusé, hyper guttural. Enfin, je trouve ça hyper bien. Voilà, ça, pour moi, ça laisse présager des groupes comme Doom, ou avec un chant très très exagéré, vraiment dans la gorge. Donc c'est bien, c'est hyper accrocheur en plus. C'est un bon groupe, Mornington Crescent. Bon groupe qui n'a pas encore été réédité. Pour les fans de hardcore, c'est un truc assez culte. Donc pour trouver un disque à un prix qui n'est pas au niveau du SMIC, c'est un peu compliqué. Volez-le si vous le trouvez. Non, mais il y aura une réédition. Et il reste un petit peu de temps. Alors, les quatre derniers morceaux, c'est pas les quatre morceaux du même pays que j'ai sélectionné. C'est quatre morceaux venant de scènes beaucoup moins connues, moins fournies. Mais voilà, je m'étais dit que si j'avais le temps, je passerais des groupes un petit peu à part, qui viennent de pays ou qu'on n'associe pas forcément au punk. Donc, il y aura un groupe du Panama, un groupe de Turquie, un groupe de Chypre et un groupe de Luxembourg. Voilà, donc je vous passe ça tout de suite pour clore.
No, no, no. companies. Major lives and works are placed and got no hold on me. Paid play, ain't no way of paid play. Paid play, fuck off and go away. Paid play, ain't no way of paid play. Paid play. On every magazine, tell you what to buy, what to wear, they define the scene. They own every major club to show their genuine fans. So if your name's not in their game, you don't stand a chance. Pay to play, ain't no way I pay to play. Pay to play, fuck off and go away. Pay to play, ain't no way I pay to play. Pay to play.
Vous êtes toujours sur Radio RTR, c'est l'émission Détruire l'ennui qui touche à sa fin. Donc on a passé 4 petits morceaux pour clore ce voyage musical et international. Alors donc, contrairement aux séries précédentes, c'était pas d'un seul pays, mais de 4 pays différents qu'on n'associe pas nécessairement forcément à des scènes punk très vivaces. Et pourtant, on a écouté en premier un groupe du Panama qui s'appelait Caras de Hambre. Donc c'est tiré d'un enregistrement de 1990 qui s'appelait Anarquía para Todos. C'était une démo cassette, évidemment. Alors le Panama étant un tout petit pays, la scène là-bas voilà, est pas énorme, mais il y a des punks voilà, dans la capitale, évidemment. C'est très particulier à part à ce qu'on m'a dit, le fonctionnement des choses au Panama. Donc ouais, je le connais très mal, donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus. C'est, à ma connaissance, le premier groupe de punk panaméen, en tout cas le premier dont j'ai entendu parler. Le morceau s'appelait Brutalidad Policiaca, ça veut dire brutalité policière. On a enchaîné par un groupe d'Istanbul, alors assez fauché hein, au niveau de l'enregistrement, au niveau du chant, bon, ça part un peu en tous les sens, mais pourquoi pas. Ça s'appelait Necrosis, et contrairement à ce que le nom pourrait indiquer, c'est pas du tout un groupe de métal bizarre, hein, c'est plutôt du punk hardcore assez entraînant, à l'ancienne, à l'arikaine. C'est tiré d'une démo de 93. Le nom de la chanson, c'est aussi le nom de la démo, c'était Imbeciles of the Universe, les imbéciles de l'univers. Ça m'a beaucoup fait rire, donc voilà, c'est le morceau que j'ai choisi de passer avec des wow un peu partout. Necrosis, ils ont fait des vrais disques, hein. Là c'est la démo hein, que j'ai passé. Donc ça explique aussi peut-être le côté, disons, amateur. Le morceau suivant, c'était un groupe de Chypre, alors des groupes de Chypre. Alors autant les groupes turcs, il y en a maintenant, il y a depuis une quinzaine d'années, voilà, il y a du groupe, il y a du punk hardcore, il y a du grindcore, il y a du crust, il y a des choses. Chypre, par contre, trouver un groupe là-bas, c'était un peu un exploit. Voilà, il y en a eu au moins un. Il s'agissait de Nuclear Mutants, c'est un groupe des années 90. Le morceau qu'on a écouté, c'est Social Wall. C'est tiré d'une démo CD, je crois, qui s'appelait Welcome to Reality de 96. Ça va être réédité en cassette par un label grec en 2007. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un des membres du groupe qui a déménagé en Grèce ou qui était grec? Je n'en ai aucune idée. Alors là, c'est hyper confidentiel. Plutôt chouette pourtant, un punk hardcore avec un chant féminin très érarié en anglais, mais très dynamique. Si ça avait été un groupe américain, je pense que ce serait beaucoup plus connu, évidemment. Voilà, groupe un peu énigmatique qui en tout cas n'aura pas forcément suscité des vocations parce que je connais pas vraiment d'autres groupes de Chypre. Derrière, et pour finir, on a eu un morceau de Petrograd, un groupe du Luxembourg. Alors Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de groupes parce que c'est tout petit, hein. Il n'y a pas non plus 30 000 explications. J'en connais quelques-uns, Hyacinthe, qu'on avait interviewé ici il y a fort longtemps, et Petrograd, eux, qui ont été actifs assez longtemps. Donc, c'était un groupe anarchiste qui mélangeait plein de styles différents, punk plutôt mélodique, hein, quand même, ce qui se faisait pas mal en France dans les années 90, mais avec des portions un peu plus barrées, des textes très réfléchis, très critiques, avec des gros livrets à chaque fois dans les disques. Enfin, c'est vraiment un groupe années 90 à fond, picoté émo presque parfois. Le morceau qu'on a écouté, c'était Pay to Play. Ça part de la commercialisation du punk rock. C'est tiré d'un split LP avec Active Minds de 1998. Mais c'est un morceau qui pourrait tout à fait avoir été écrit et diffusé aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai fini mon petit tour. Je ne sais pas si l'émission suivante est prête.
Pas encore.
Donc allez, on va. C'est pas grave. On va mettre un peu de punk rock du Kazakhstan. Du coup, c'est ma roue de secours. On va écouter un morceau de Adaptatsia.
Yeah.
чертила до пары машин. Я стоял одинокий среди грустных людей. Мне хотелось в любви, мне хотелось скорее. Мой город будет стоять, мой город будет стоять, мой город будет стоять. По переименованным улицам, по убитому детству далекому, мимо псов со страшными рожами улыбаются мне прохожие. Наши звезды на небе светятся, ночи психи луною маятся, провода из колбы шевелятся, даже стены идти кусаются. Ну а если проснусь, то не выдам себя, дикаря улыбнусь, разобью зеркала, белый саван зимы. Он взлетит на земле, остается следы, что-то сдохло на мне. Мой город будет стоять, мой город будет стоять, мой город будет стоять.
Ветром соленым дышат просторы, молнии крестят мрак грозовой. Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Час, когда утро встает над Невой.
твой трамвай на бесплатный поезд. До вечера рай гармоничен, ты пограничен, я из-за этого я люблю тебя. Дезертир, 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 дезертир. Это глобально, с войной война. Демократы, коммунисты, другая хуйня. Параллельно не резвая то, что все мы мудаки. Ты ладаешь на веру, насчитай стежки. Дезертир, 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 дезертир.
Voilà, c'était la fin de l'émission Détruire l'ennui. On a passé 4 morceaux de Adaptatia carrément. Alors, j'aime beaucoup le groupe, 4 c'est peut-être un peu long. C'est un groupe du Kazakhstan qui n'existe plus, qui a été actif surtout dans les années 2000. Donc c'est du punk rock assez mélancolique, avec ce chant qui moi me rappelait beaucoup les groupes russes de Sibérie, de la région de Omsk principalement. Voilà, donc il y a un côté très fort, très épique comme ça, et avec une certaine tristesse. Il y a sorti des cassettes et on peut trouver ce disque en vrai, parce qu'évidemment, sortir des disques au Kazakhstan et les foutre sur les Destroyers, c'est un peu compliqué. Il y a un label français, Tiananmen 89, qui est un peu un globe-trotteur du punk, et qui a sorti un split LP entre deux groupes kazakhs, Adaptatia et Bichara Baldar, il me semble que c'est de 2003, j'ai pas la date exacte en tête, mais à mon avis c'est comme ça. Voilà. Et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il voyage et il sort des disques pour des groupes appartenant à des scènes un peu isolées ou qui n'ont pas forcément les moyens de sortir leur propre truc. Et voilà, il leur propose un disque. Donc voilà, c'est un label qui a fait beaucoup pour les groupes de cette région et d'autres. Et donc Adaptatia, c'est clairement, il sort des trucs des fois, c'est du punk au sens très large. Mais voilà, Adaptatia, c'est un de mes préférés. Je pense qu'on est à peu près prêt.
À peu près. Je vais juste lancer et je suis vraiment désolé d'être en retard.
Non, c'est pas grave. donc du coup, moi je serai pas là dans 2 semaines, mais la fois d'après, oui.
C'est la 5e semaine fameuse, c'est ça?
C'est je t'explique. Ben, ouais. Ça intéressera pas grand monde, mais voilà. En tout cas, je vous laisse avec Rudy's Back in Town et avec un vinyle, quoi. C'est ça.
C'est ça. Bon, allez.